Radio Orient présente Pluriel.
Vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel.
Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, spécialiste de la cybersécurité, fin connaisseur des enjeux de sécurité et de défense. Alors, Olivier Cadic, monsieur le sénateur, chaque semaine semble apporter son foyer de tension sur le front international. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous qualifiez l'ère dans laquelle nous sommes entrés après les événements, les soubresauts géopolitiques de ce début d'année? On pense bien entendu à ce début d'année marqué par la capture du dictateur vénézuélien Nicolas Maduro.
Ça donne un peu l'impression de vivre un diplo-show, puisque chaque semaine, il se passe un événement qui semble menacer, je dirais, les grands équilibres du monde. Je pense à la dernière semaine de décembre, où on avait Taïwan qui était encerclé par la marine chinoise. Donc ensuite, on a eu la capture de Nicolas Maduro, qui était recherché. Sa tête était mise à prix pour 50 millions de dollars. La semaine suivante, c'était le Groenland. La semaine suivante, c'était l'Iran. Donc, on voit que chaque semaine, une crise nouvelle, mais en fait, ce sont les soubresauts qui sont les suites au départ de la première crise profonde, qui est l'attaque de l'Ukraine par la Russie, l'invasion. Et donc, c'est le premier conflit structurant. L'escalade entre Iran et Israël est venue l'année d'après. Et depuis, on vit des escalades perpétuelles. On n'a jamais connu autant de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que ce que l'on recense aujourd'hui dans le monde. C'est la démonstration que le monde est en vrai mouvement.
Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que d'après votre propos, ce n'est pas Donald Trump, mais Vladimir Poutine, le président russe, qui serait à l'origine de ce bouleversement géopolitique. Et ça, c'est rarement dit aujourd'hui.
C'est le premier conflit qui déclenche. Et la difficulté, la problématique, c'est qu'on sent qu'on va d'escalade en escalade et qu'on sent bien qu'on se rapproche de plus en plus d'un conflit potentiel en mer de Chine méridionale. On voit que la Chine est de plus en plus agressive en mer de Chine méridionale, s'en prend aux Philippines, s'en prend ouvertement aux îles au Japon. Et donc, on sent bien ce nœud coulant qui est en train de se resserrer sur Taïwan, ce qui serait en fait l'escalade finale, puisque je pense que si la Chine menait un peu ses menaces à exécution, et alors, s'il s'en prenait vraiment à Taïwan, alors ça serait le Pearl Harbor potentiel de la Troisième Guerre mondiale, puisque là, on rentrerait sur un jeu de dominos qui entraînerait les autres pays d'Asie. Et là, on voit bien que le centre du monde est aujourd'hui, au niveau économique, est plutôt là-bas.
Est-ce que cela expliquerait tout ce que vous dites, le changement d'orientation du président états-unien Donald Trump, ce deuxième mandat qui semble très différent du premier, Donald Trump qui agit davantage aujourd'hui comme un prédateur sur le plan géopolitique?
Pour l'instant, en termes de prédation, je ne vois pas. Il a menacé, il avait parlé Panama quand il a été élu, c'était ça, le premier territoire dont il avait parlé, et il avait aussi parlé du Groenland. Bon, Panama, très vite, a réglé le problème. C'est-à-dire que les Chinois sont repartis. Et donc, le Venezuela, c'est un peu la même chose, comme Cuba. Donc, il menace pour avoir un peu gain de cause, pour faire reculer les Chinois. Donc, je pense que c'est sa technique. Si vous voulez dire c'est un prédateur...
On dit que c'est une prédation verbale. Ce sont des menaces. Il menace même le Canada en disant souhaiter voir le Canada comme étant le 51e État états-unien. Le Canada qui a même modélisé une éventuelle attaque de la part des États-Unis, sans y croire vraiment.
Bien sûr, mais je crois que tout le monde doit se préparer toujours à l'inimaginable. Et donc, ça paraît inimaginable. Simplement, le président Trump a sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça rende les États-Unis très populaires au niveau international. Aujourd'hui, le président américain cherche à reprendre l'ascendant par rapport à la Chine qui se développe économiquement et qui prend avantage d'une situation actuellement internationale. Et donc, il essaye de reprendre le leadership. On a un affrontement entre la Chine et les États-Unis. Et donc, en fait, quelque part, chacun est obligé un peu de se positionner par rapport à ça. Il emmène tout le monde dans cette direction. Au Venezuela, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi la Russie, il y a aussi le Hezbollah qui était présent, l'Iran qui apportait du pétrole même à un moment au Venezuela. Il y a le soutien à Cuba, qui est un vrai sujet. On pourrait parler de la question du Mexique. Et là, on voit qu'aujourd'hui, le Mexique a livré plus de 31 narcotrafiquants aux États-Unis, y compris des gens qui étaient pas loin du gouvernement. Donc, ça veut bien dire que son approche, qui est très offensive, qui peut paraître très agressive pour certains, finalement donne aussi quelque part un peu des résultats. Donc,
la donne des résultats sans aider les populations sur place. On le voit par exemple au Venezuela, où c'est la vice-présidente chaviste qui aujourd'hui est à la tête du pays. La population aujourd'hui n'a pas vu de changement par rapport à la dictature de Maduro.
Et savez-vous qui a touché les 50 millions de dollars de primes? Voilà, donc je ne sais pas à qui profite le changement de président au Venezuela. Donc on ne sait pas. Donc c'est la tête de Nicolas Maduro était mise à prix. La vice-présidente était un vrai soutien de M. Maduro.
Et elle est au pouvoir.
Et elle est au pouvoir aujourd'hui. Voilà. On peut effectivement se poser des questions.
Et vous avez évoqué les liens avec le Hezbollah. Sur la question iranienne, justement, l'Iran a connu un soulèvement depuis le 28 décembre dernier. Alors, cela semblait au départ être lié à l'inflation galopante en Iran, la hausse des prix. Cela s'est transformé ensuite en soulèvement politique contre le régime des Mollahs, un soulèvement qui a été très violemment réprimé par le régime. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, comment réagir à cela? Iran qui ne dispose pas, pour le moment en tous les cas, de personnalités qui pourraient faire consensus au sein de la population. L'Iran qui, parallèlement, ne supporte plus d'être dirigé par ces mollahs. Quel type d'alternative, sachant aussi que le peuple iranien ne souhaite pas forcément d'ingérence étrangère et veut mener sa propre révolution?
Si les Iraniens veulent se délivrer d'un pouvoir qui les oppresse depuis 1979, qui prône, je le rappelle, un expansionnisme qui voulait renverser avec sa révolution toutes les monarchies du Golfe, qui voulait mettre à bas l'État d'Israël, le petit Satan, et se confronter au grand Satan, qui sont les États-Unis d'Amérique. Et ils n'ont pas changé de discours. On sent qu'il y a effectivement ce régime est en grave difficulté. Maintenant, c'est une dictature qui existe depuis plus d'un demi-siècle, religieuse. Il faut imaginer, des gens qui ont 60 ans n'ont connu que les mollahs. Donc, vous pouvez, avec toute la jeunesse qui vient derrière. Donc, effectivement, quand c'est réprimé à ce niveau-là dans le sang, et on parle d'un grand pays, donc vaste, donc on peut bien imaginer que ça ne va pas être facile à renverser. Et ça nous pose la question, puisque Venezuela et Iran, même combat. Ce sont d'en parler, et on n'a pas eu de changement de régime. Donc, les démocrates, au Venezuela comme en Iran, souffrent, soit sont en prison, soit sont assassinés, soit doivent quitter le pays. Donc, c'est la même situation. Et c'est quel est notre devoir, nous, démocratie, d'assistance à peuple en danger? Donc ça nous renvoie justement à notre propre responsabilité. C'est un vrai sujet de réflexion. Et se poser quand même la question, est-ce que les démocraties en font assez pour défendre les autres démocraties et pour défendre les démocrates?
Est-ce que l'affaiblissement du multilatéralisme aujourd'hui a un impact capital là-dessus? Quand vous voyez Donald Trump qui veut créer son Conseil de la paix, une sorte d'organisation des Nations Unies privée, comment est-ce que vous regardez ça? L'ensemble des garde-fous semble disparaître sur cette planète.
On a une personnalité aujourd'hui qui est à la tête des États-Unis, qui prend des libertés avec les structures dont les États-Unis sont eux-mêmes les propres fondateurs. Donc, ça pose une question par rapport au fonctionnement aujourd'hui des États-Unis, de ce que veulent effectivement les États-Unis. On voit bien qu'au niveau intérieur, il commence à y avoir des contestations qui montent de plus en plus fortement. Il va y avoir les mid-termes qui vont arriver au mois de novembre. On verra ce qu'il en sera à la fin de l'année. Est-ce que les choses n'auront pas évolué ? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le Conseil de la paix, c'était au départ, la résolution, c'était pour Gaza. Et donc, ce n'était pas pour faire un ONU bis. Et c'est pour ça que ça a surpris beaucoup, là aussi, puisque on parle de diplomatique show. C'est encore une nouvelle, je dirais, une nouvelle avanie où on voit bien que le président Trump cherche à orienter les choses d'une certaine façon. On voit bien maintenant les résistances. On parlait des résistances intérieures aux États-Unis, mais vous voyez bien les résistances maintenant qui commencent à s'afficher ouvertement au niveau européen.
De part des grandes puissances, le président français.
Absolument. Aussi le premier ministre britannique. Donc on voit bien que ce qui fondait, je dirais, l'alliance. Donc, on voit bien qu'il y a des résistances qui commencent à naître de tous les côtés. Les États-Unis et l'Union européenne sont interdépendants, que ce soit d'un point de vue défense militaire, que ce soit d'un point de vue économique. Et donc, j'ai toujours été optimiste sur la sortie. Je ne crois pas qu'on va retirer le portrait de Lafayette du Sénat américain ou de George Washington avant longtemps.
Je voyais en une part de bluff. D'une certaine manière.
Ça peut être un coup, ça peut être une technique qui est de dire « je fais pression ». On a vu ça dans l'histoire des États-Unis. Il y a eu d'autres périodes où des présidents américains ont agi comme ça. Pour les tarifs, on a eu un certain Jackson et à une époque où les États-Unis rentraient plus d'argent avec les droits de douane qu'avec les impôts. Toutes ces techniques-là ont déjà existé dans l'histoire des États-Unis. Mais regardez, du côté chinois, à Pékin, c'est aussi « House of Cards ». Comme les gens ne savent pas, c'est totalement opaque. Mais regardez qui reste dans l'état-major chinois autour de M. Xi Jinping, de tout l'état-major qu'il avait quand il est arrivé, il n'en reste plus qu'un. Ils ne sont plus que deux. Donc, on voit bien que même l'information sur la Chine, on voit bien qu'il se passe des choses, y compris au niveau intérieur, au niveau chinois. Et toute l'inquiétude que nous avons, c'est qu'on voit que nous sommes dans un enclenchement, un engrenage d'escalade. Et on se dit qu'on se rend compte que peut-être que ça n'est pas terminé. Et donc, c'est ce qui fait que la tension est en train de monter de plus en plus fort. Et c'est pour ça que vous voyez bien que tout le monde cherche à s'armer, parce que tout le monde est inquiet de devoir être confronté lui-même à un conflit direct.
Tout le monde cherche à s'armer, dites-vous. L'Europe cherche à s'armer. Existe-t-il aujourd'hui une véritable Europe de la défense face à l'ensemble des défis que vous avez évoqués, Olivier Cadic, monsieur le sénateur ?
Il y a une Europe qui est de plus en plus forte. Les pères fondateurs de l'Europe seraient certainement satisfaits de voir une Europe élargie, de voir des pays qui rêvent de rentrer dans l'Union européenne. Moi, je plaide pour que les Balkans soient intégrés. Ce n'est pas pour moi un élargissement. Les Balkans sont sur le sol européen et doivent être intégrés. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir. Écoutez, il n'y a pas d'Europe de la défense pour l'instant telle qu'on peut l'entendre, tel qu'on peut en avoir besoin. Parce que, si vous voulez, l'Europe se construit avec les crises. La Covid a généré l'Europe de la santé. C'est la Covid qui a généré le fait qu'on devait être solidaire, et sinon, il y aurait eu des États de l'Union qui n'auraient pas eu de masque ou qui n'auraient pas eu de vaccin. Et le deuxième mandat de Trump accélère encore ce fait de cette nécessité, ce sentiment important d'être ensemble, entre Européens, de se rendre compte qu'il faut compter sur nous-mêmes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on change. Parce que dans les États de l'Union européenne, tout le monde n'a pas la même vision, la même problématique. L'Union, sa devise, c'est unie dans la diversité. Mais nous sommes unis. Or, aujourd'hui, nous avons des États qui sont en première ligne, les États baltes, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, face à la Russie, et qui sentent très fortement la pression. Mais il y a une grande solidarité qui se crée. Et regardez la position, le nombre de soldats français aujourd'hui qui sont positionnés en Roumanie. Donc, il y a une vraie solidarité que l'on ressent très fortement.
L'actualité en, En France, le sénateur Olivier Cadic, hein, c'est le sujet très sensible de la fin de vie. C'est l'un des sujets importants aujourd'hui. Les sénateurs ont voté contre le texte lié à l'assistance médicale à mourir. Les sénateurs qui avaient profondément modifié et dénaturé le texte initial. La navette parlementaire va se poursuivre. Vous étiez pour le texte initialement proposé par l'Assemblée nationale. Qu'attendez-vous aujourd'hui et souhaiteriez-vous aujourd'hui voir le président de la République proposer un référendum sur cette question? Emmanuel Macron qui avait dit vouloir laisser s'exprimer les Français davantage encore cette année.
J'avais fait des amendements pour que l'on revienne, des amendements au texte proposé par la Commission des affaires sociales qui dénaturait déjà beaucoup de textes votés par l'Assemblée nationale. J'avais fait des amendements pour qu'on revienne au texte d'origine. J'ai bien évidemment voté contre ce texte qui était, je dirais, un recul même par rapport à ce que nous avions par le passé et ce que nous avions actuellement en termes de droit. Donc je me réjouis du fait que ce vote soit... Il y ait une majorité contre et donc on reviendra au texte de l'Assemblée nationale. Si le président de la République estime que c'est un sujet qui mérite d'être sanctionné par un référendum, eh bien écoutez, pourquoi pas, c'est un sujet de société.
Un grand merci, Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées du Sénat, spécialiste de la cybersécurité. Vous êtes un fin connaisseur des enjeux liés à la sécurité et à la défense. C'est la fin de cette émission plurielle. Un grand merci à vous, chers auditeurs, et excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Pluriel.